L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Le Café Chanson, une émission autour du festival de la chanson de femmes. Café Chanson, une émission sur HDR, Chandelle, un festival avec des voix de femmes.
Bonjour à toutes et à tous, nous voici à nouveau ensemble pour ce Café Chanson, 22e émission du Festival Chandelle. On est au centre André Malraux, au cœur d'une des actions culturelles du festival cette année. Je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Il me semble important de vous rappeler deux objectifs forts du Festival Chandelle. Le premier, c'est d'élargir les publics qui fréquentent le festival, à la fois du point de vue de leurs origines sociales et également de leurs origines géographiques, puisque vous le savez, le festival se déplace dans l'Eure et dans la Seine-Maritime. Et le deuxième objectif qui est très fort, c'est de faciliter l'accès à la culture à tous les publics. Et aujourd'hui, le Café Chanson traitera des handicaps invisibles et plus particulièrement des personnes sourdes et malentendantes. Et vous savez tous ô combien qu'on a beaucoup de progrès à faire encore pour élargir l'accès à la culture à ces publics. L'action culturelle au cœur de laquelle on est aujourd'hui, qui est une chorale éphémère entendant personnes sourdes, prend place dans une action culturelle plus large qui s'intitule Voix de femme, langage pluriel et métamorphose, et qui a donné donc la parole à des ateliers d'écriture, à des femmes qui ont participé à un atelier d'écriture et qui ont fait un spectacle de cet atelier. On a ouvert également les portes à quatre artistes, peintres, photographes et donc le chant choral. Je voudrais juste dire également qu'il y a une autre action culturelle sur les violences faites aux femmes. Vous le savez, la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre. Chandelle aura un petit peu d'avance sur cette journée puisqu'il y aura deux marches exploratoires qui auront lieu le 17 novembre en partenariat avec la Métropole et le centre Simone Veil à Rouen. Vous retrouverez toutes les informations sur ces actions sur le site internet de Chandelle. Je pense qu'il est temps que je vous présente les personnes qui sont autour de moi. Donc, juste à mes côtés, Zoé Besmond de Senneville.
Bonjour.
Qui est donc comédienne, modèle d'art, poétesse ou poète, voilà, on dit comme on veut, qui nous parlera un peu de son parcours. À ses côtés, Amélie Afagar.
Bonjour.
Qu'on présente presque plus, mais voilà. Philippe Lhuillier, qui est chansigneur. Pauline, j'ai oublié votre nom, Pauline Jeanne, qui est interprète dans la SCOP Liesse et qui nous présentera ce qu'est cette SCOP Liesse.
Bonjour.
Et Brigitte, qui fait partie de la chorale éphémère qui a lieu donc ici au centre André Malraux.
Bonjour.
Et je n'oublie pas non plus Julie, qui est la personne qui traduira pour Philippe et pour nous, en langue des signes. Je précise donc que ce Café Chanson est filmé et enregistré. Je vous donnerai les dates de diffusion. Pour entrer dans le cœur de cette thématique, je donne la parole à Zoé, qui va nous lire un extrait de son ouvrage qui s'appelle « Journal de mes oreilles ».
« 5 mai 2020. En ce moment, c'est calme dans mes oreilles. Le silence du confinement leur sied bien. Pas de sollicitation ou sur-sollicitation. Pas de tentative d'attraper des mots au milieu d'un groupe ici et là. Pas de constant brouhaha de la rue, de la circulation. Pas de peur de ne pas entendre la prochaine phrase. Pas de lecture labiale non plus et pas d'appareil. Il y a juste la crainte que quelqu'un me parle d'un peu loin et ou sous son masque. Auquel cas, j'ai une parade infaillible. Je suis pressée, je ne veux pas attraper le Covid. Cela dit, je l'ai probablement déjà eu alors. Je passe mes journées au casque pour entendre les profs de yoga et leurs mantras. Bruit artificiel donc, nous y revoilà. Le reste du temps, c'est ma voix que je dois chercher pour entendre un son qui ne sort pas d'une boîte. Autre possible, Simone qui miaule. Tous les jours vers midi pour une raison encore pas identifiée. Elle a appris à timbrer son petit miaulement qui était au début imperceptible à mon oreille. Elle a compris Simone, elle ne plaisante pas. D'ailleurs, parfois je me dis que c'est elle, mon oreille fine. Elle entend mon voisin qui marche chez lui, sa radio quand il parle au téléphone, les bruits des clap 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 dehors, mon téléphone et mon réveil mieux que moi. Elle ne manque pas de m'asséner de gros coups de patte quand il ne me réveille pas. Je n'entends pas les aigus. Pas bien, pas tous. Pas bien, pas assez bien, pas certain, pas ceci, pas cela. Histoire de fréquence et autre chose technique que j'oublie systématiquement après l'explication ou la réexplication de leurs mécanismes tenants et aboutissants. C'est arrivé petit à petit et d'un coup en même temps. Première crise assimilée comme otite inaugurée pile poil le jour de mes 25 ans, pas très loin d'une opération des dents de sagesse probablement un peu brusque. Les mots se dégradent, les acouphènes arrivent. Au début, on vit avec sans le savoir, sans en tenir compte, sans avoir pris conscience qu'ils étaient installés là, dans le creux de ma tête, dans le creux de mes sens, là où il y a eu une perte, on me dit. Ils ont pris la place de certains sons. Les oreilles ont mal à répétition. Je ne comprends pas et ne veux pas comprendre. Je ferme les yeux, me soigne comme je peux pour ne plus avoir mal, en privilégiant l'approche la plus respectueuse possible pour mon corps, la plus douce, celle qui m'endormirait le moins, me droguerait le moins, me rendrait le plus consciente, m'aiderait à y voir clair, à comprendre, à entendre ce que je ne veux pas entendre, à ouvrir mes oreilles. Paradoxalement, je ne prends pas soin de moi dans ma vie. Pas assez, je cours partout, me laisse aller, j'enchaîne, je pose comme modèle d'art, n'entends pas les douleurs de mon corps, la fatigue, les moments où il a besoin de récupérer ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Je continue la course, le travail, les recherches en tout genre pour guérir, les entretiens thérapeutiques. Les cloches dans ma tête sonnent toujours et de plus en plus fort. Elles m'indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et l'urgence de s'en occuper. L'urgence est confirmée en janvier 2018. Je suis finalement allée voir de vrais médecins, ceux que je n'aime pas, ceux qui risquent de me donner des médicaments forts et qui considèrent le corps de façon trop fractionnée pour en comprendre le fonctionnement profond, les différentes strates, mais qui disposent quand même de machines pratiques comme le scanner, par exemple. Bref, je passe un scanner. Juste avant d'avoir le diagnostic officiel, je vais chercher les résultats. Le soir même, je retrouve mon père au théâtre pour aller voir Miracle en Alabama. C'est une pièce qui raconte l'enfance d'Helen Keller, une écrivaine et activiste américaine de la fin du 19e siècle. Son parcours est impressionnant. C'est la première femme handicapée à obtenir un diplôme universitaire. J'avais d'ailleurs passé l'audition pour la jouer, mais je n'ai pas été prise. Je dis papa, il y a marqué foyer auto-spongieux sur le bilan du scanner. Mon père, de son flegme impérieux et presque impérial, me répond « Tu ne t'inquiètes pas ». Tu attends d'avoir vu le médecin. Le diagnostic tombe. Autospongiose bilatérale cochléaire.
Merci Zoé. Peut-être pouvez-vous nous dire comment est né le journal de mes oreilles?
C'est un texte que j'ai écrit pendant le confinement, en 2020, pendant le tout premier confinement, où on était vraiment chez soi. Vraiment, moi, c'est la première fois que je me suis retrouvée aussi longtemps seule avec moi-même, et j'ai beaucoup développé mon travail d'écriture pendant ce moment-là, justement parce que j'étais dans mon cocon, et aussi parce que j'étais beaucoup moins soumise au bruit du dehors, et vu que je suis récemment assez récemment malentendante, et du coup que mes oreilles sont fragiles, j'en ai découvert leur fragilité et ma vulnérabilité mettons entre 2018 et 2019. Et pendant ce moment de confinement, ça a été vraiment un cadeau, parce que j'ai pu vraiment me retrouver dans beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'agitation de l'extérieur, et écrire. C'est un texte qui a jailli, que j'ai pas du tout décidé d'écrire. Moi, j'ai demandé un peu comme ça à l'univers, qu'est-ce qui me ferait guérir, et j'ai commencé à écrire Journal de mes oreilles. C'est d'abord quelque chose qui a été un podcast, et puis que j'ai diffusé via un audio sur SoundCloud, et puis qui a été repéré par la presse, et ensuite Flammarion, la maison d'édition, est venue me chercher, mais en aucun cas j'avais pensé que ce serait un livre. Même le podcast, j'y pensais pas vraiment, j'ai juste cherché à le diffuser de façon assez directe. Voilà comment est né le Journal de mes oreilles.
Et là, vous envisagez d'ailleurs de le porter à la scène, je crois.
Oui, on est en train de préparer l'adaptation théâtrale. Ça va être joué l'année prochaine. Les productions théâtrales sont assez longues, le temps de trouver les partenaires et de tout mettre en place. On a encore une bonne année.
Merci. Donc, je voulais rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. La définition qu'on en donne, c'est que ce sont des handicaps qui peuvent recouvrir la surdité, l'autisme, les douleurs chroniques, les troubles psy, etc. Donc, ça recouvre un spectre très, très large de difficultés. J'avais envie, pour qu'on ne reste pas sur cette question du handicap, de citer un ethnologue qui s'appelle Yves Delaporte et qui dit que alors que les entendants définissent les sourds en fonction de leur déficit auditif, les sourds eux-mêmes partagent le monde en deux catégories en fonction du mode de communication. Ceux qui communiquent à l'aide de la parole et ceux qui communiquent à l'aide des signes. Selon ce point de vue, il s'agit donc d'une différence culturelle et non d'une déficience physiologique. Et d'ailleurs, Zoé dit également dans son livre, je regarde ce mot handicap, celui-là non plus je ne le comprends pas, je n'arrive pas à l'intégrer, il désigne un état d'infériorité, de limitation, d'incapacité, je le trouve stigmatisant et réducteur. J'avais envie de vous entendre réagir sur ce que nous dit donc cet ethnologue et sur ce qu'en dit Zoé. Est-ce que vous êtes d'accord et qu'on aille un petit peu sur la culture sourde, hein, puisqu'on parle beaucoup de culture sourde. Voilà, je sais pas, peut-être Philippe dans un premier temps, peut-être aussi Pauline et pourquoi pas Amélie aussi, parce que on est entendant, mais on a aussi des choses à dire là-dessus.
C'est vrai que c'est un véritable plaisir pour moi déjà de pouvoir m'exprimer sur la culture, enfin plutôt la culture en général. Parce qu'il y a souvent deux regards. Il y a le regard sur le handicap, qui est souvent médical, sur le soin du handicap, sur comment guérir le handicap. Parce que souvent, quand on découvre la surdité de quelqu'un, ben, c'est lié à la communication. Il y a des inquiétudes de la part de la famille sur les difficultés que ça peut provoquer. Moi-même, d'ailleurs, au sein de ma famille, je suis quand même la troisième génération de sourds. Et je remercie vraiment beaucoup mes parents qui ont su s'adapter et faire que je sois naturellement à l'aise dans la société avec les entendants. Il y a eu des interventions, j'interviens régulièrement dans le scolaire et je vois souvent des personnes qui sont confrontées à cet obstacle de la communication. C'est vrai que depuis la loi de 2005, la loi sur l'accessibilité des chances et le droit aux chances, c'est vrai qu'on a regardé le handicap et la surdité plus sur les besoins qui était lié. C'est vrai que nos besoins sont relativement simples, en fait. On a besoin de l'accessibilité à la langue des signes, déjà. L'expression. Et là, effectivement, on a souvent plutôt porté l'éducation sur l'oralité, sur le fait de proposer à des sourds d'apprendre à oraliser, notamment par le chant, parce que là, il est question de chant, et de se rendre compte que finalement, il peut y avoir le chant d'une autre façon, avec la langue des signes, ça rend véritablement égaux les entendants et les sourds. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ces échanges sont très intéressants et qu'il y a deux points de vue différents. Il y a celui de l'oralisation, mais il y a aussi celui de la langue des signes. On pourrait parler aussi de la différence entre les personnes qui sont devenues sourdes ou qui sont malentendantes et les personnes qui sont nées sourdes, parce que il y a des personnes qui, depuis leur plus jeune âge, sont habituées à suivre des médecins qui veulent essayer de les rééduquer, de leur mettre des appareils. Enfin, c'est pareil que moi, j'ai des appareils auditifs et pour autant, je n'entends pas comme vous. Je perçois quelques sons, mais alors déjà, en fonction des voix, je ne comprends pas tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu comme dans un pays étranger. Et ma voix aussi vous ferait penser à une personne native d'un autre pays. Et je réponds simplement, en fait, aux gens que je suis sourd. Ah, alors quand c'est comme ça, les gens se disent « Bon, peut-être que je peux essayer de lui parler en anglais, il va peut-être mieux me comprendre. » Mais je leur explique que non, c'est pas la peine. En général, on se débrouille, on communique par des mimes, on essaie d'utiliser le visuel, mais c'est vrai que les gens sont souvent un peu démobilisés, enfin déstabilisés par ce constat, parce qu'en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pu voyager, j'ai pu faire de la plongée sous-marine, je peux parler avec mes amis en plongée sous-marine parce que la langue des signes permet ça, et je trouve que c'est quand même un sacré avantage dans le monde de pouvoir quand même voyager par rapport à vous entendants qui êtes bloqués lorsque des gens n'ont pas la même langue que vous, qui cherchaient le petit dictionnaire anglais-français pour pouvoir vous aider en pays étranger. Voilà, c'est une petite anecdote.
Amélie ?
Et je voudrais peut-être juste... Non.
Pardon.
Non, mais voilà, je laisse la parole.
Ben oui, moi, je suis très contente de participer à ce projet. En fait, moi, je me sens un peu comme cette étrangère. Tu sais, quand je ne parle pas allemand, par exemple. Et quand je vais en Allemagne, je me retrouve exactement dans la même situation. J'attends qu'on me traduise ce qui se passe. Ça me fait beaucoup réfléchir sur le voix. C'est ce que je disais tout à l'heure au chanteur entendant. Le rythme interne que nous, finalement, on a naturellement, mais que quand on l'enlève, c'était intéressant tout à l'heure de faire juste les signes dans le silence, parce qu'en fait on oublie, il y a plein de choses qu'on oublie, et c'est troublant de vivre ça ensemble, parce que je m'aperçois que les gens ont envie, on a envie de communiquer, on a envie de pouvoir se parler, on a envie d'apprendre vite des mots, comme quand t'es dans un autre pays par exemple, et je trouve ça dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Et bien c'est pour ça qu'on peut après, on va pouvoir prendre le rythme de tous les deux et chanter ensemble.
Voilà. Avec plaisir.
Mais avoir eu ce moment de partage, cette expérience.
Pauline, peut-être, je ne sais pas ce que vous pensez de cette question de la culture sourde, du handicap, pas handicap, déficit. Et puis, du coup, on fera le lien sur la SCOPLIES que vous nous présenterez.
Moi, je vais faire court, parce que Philippe a dit déjà beaucoup de choses. Yves Delaporte aussi, d'ailleurs. Moi, c'est assez simple. La notion de surdité, je l'ai rarement assimilée à une notion de handicap. J'ai grandi à côté de voisins qui étaient sourds. Je l'ai découvert quand j'avais 18 ans. Donc ça n'a jamais posé un problème en fait dans l'accessibilité et la communication avec mes voisins. J'avais même pas conscience en fait qu'ils avaient un handicap. Je savais même pas qu'ils étaient sourds en fait. C'était juste mes voisins, ils étaient comme ça et puis voilà. Et j'ai découvert la langue des signes par ses voisins parce que ma voisine était professeure de langue des signes. Et elle m'a enseigné la langue des signes, et à partir de là, c'est devenu juste mon enseignante de langue des signes. Donc, c'était pas mon enseignante sourde avec handicap ou ma voisine sourde avec handicap. C'était juste comme on a des enseignants d'anglais ou des enseignants d'allemand. C'était mon enseignante de langue des signes. Et quand je suis arrivée à l'université de Rouen, j'ai eu un autre enseignant de langue des signes, sourd également, et pareil, la notion de handicap n'était pas du tout là. Donc, déjà, dans ma construction personnelle, j'ai pas associé la surdité à un handicap. Et ensuite, pour faire le parallèle avec mon métier, nous, on a l'habitude de dire qu'on est des ponts culturels, donc des ponts culturels entre deux langues et entre deux cultures, et pas entre une personne avec handicap et une personne sans handicap. Et d'ailleurs, on ne traduit pas pour les personnes sourdes, on traduit, comme tu l'as si justement dit au début, pour les entendants et pour les sourds. Parce que si Julie n'était pas là, moi je comprends la langue des signes, donc je me serais débrouillée. Mais la plupart des gens ici n'auraient pas compris ce qu'aurait dit Philippe, alors que c'est tout à fait clair pour une personne qui comprend la langue des signes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est mon avis.
Oui, absolument.
Oui, juste, j'aurais voulu vraiment dire merci.
Merci justement aux interprètes qui sont là, en fait, et qui font ce pont. En fait, qui nous permettent à nous tous de nous entendre et de. Et c'est exactement comme les interprètes de langue étrangère. Et je voudrais vraiment quand même les remercier, Aliès, qui nous ont donné, qui m'ont valorisé aussi dans mon travail et m'ont permis effectivement d'avoir cette place dans ce projet. Ils ont fait appel à moi. Et puis merci à vous aussi d'avoir fait en sorte qu'on puisse, sans regard justement négatif sur le handicap, réaliser ce projet tous ensemble. Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très... dans la vie, on parle souvent de handicap, on dit souvent qu'on est... On utilise souvent le mot de handicap. En fait, pour moi, la définition, c'est plutôt se retrouver en situation de handicap. Juste parce qu'on n'entend pas, et après chacun fait des efforts, effectivement, on pense souvent à... On a tendance à vouloir réparer l'oreille, mais ce qu'on oublie en fait, c'est que... oui, les gens ont 5 sens, j'en ai peut-être que 4 de développés, mais ils sont développés peut-être plus encore que si j'avais eu le 5e présent. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont aveugles, qui ont des situations peut-être des fois d'obstacles, comme nous, comme les autres, comme tout le monde. Et c'est vrai que derrière le handicap, souvent, on oublie la richesse individuelle de chacun et les valeurs qui sont liées ou non à une identité, en fait. Souvent, on se dit « Oh, le pauvre, on a pitié. » Et en fait, finalement, c'est des gens qui sont tout à fait... Enfin, on se focalise sur le handicap, sur la surdité en tant que handicap, mais il y a aussi des personnes qui sont aveugles et sourdes, des personnes qui peuvent avoir des handicaps physiques associés ou non. Et en fait, on se rend compte en communiquant avec ces personnes que c'est des personnes vraiment riches, intellectuellement riches et variées. Voilà. Donc je voudrais vous dire merci de nous permettre d'être ensemble.
Donc Philippe parle des interprètes. Vous pouvez nous dire quelques mots sur la SCOP LIES, Pauline ?
Alors, j'ai mal fait mon travail parce qu'avant de venir, je voulais réviser la date de création de l'IS et je vais me faire taper sur les doigts. Mais comme on a fêté le 16e anniversaire, ça fait donc depuis 2005. L'IS était d'abord créée en association, je vous fais l'histoire très rapide, hein, une association créée ici à Rouen et qui intervient dans tout le département de Seine-Maritime, également dans l'Eure et en fait plus généralement dans la Normandie parce qu'il nous arrive d'intervenir sur Caen et Le Havre, éventuellement Paris. Et donc maintenant on est devenu une SCOP. Donc une SCOP, c'est une entreprise, hein, tout simplement, qui a pour particularité d'être gérée par une personne qui est interprète. Au-delà de plusieurs autres valeurs de l'économie sociale et solidaire, à l'IS, notre gérante, c'est avant tout une interprète en langue des signes. Donc elle connaît nos valeurs, elle connaît notre métier, elle connaît nos conditions de travail, et c'est très important dans le statut d'une SCOP. Maintenant, interprète en langue des signes. Je suis désolée, je souffle dans le micro, mais je n'ai pas l'habitude. D'habitude, moi, je traduis comme ma collègue. Nous sommes donc une entreprise d'interprètes. On est 8 interprètes en langue des signes, une assistante de gestion et une comptable. Et on intervient dans le cadre de traduction et d'interprétation dans le milieu privé, dans le milieu public, dans le milieu familial, entrepreneurial. On traduit des rendez-vous, des réunions, voilà, des rendez-vous du quotidien à la banque, à l'école, des événements culturels comme celui-ci, des conférences. On traduit vraiment partout là où on a besoin de nous, que ce soit à la demande de clients sourds ou de clients entendants. Voilà pour la présentation de l'entreprise. Et un petit point rapide sur le métier d'interprète. Donc le métier d'interprète, c'est 5 ans d'études. C'est un bac plus 5, donc un master. Et dans ce master, en fait, on apprend vraiment les techniques d'interprétation. Donc on doit déjà maîtriser la langue des signes avant d'intégrer le master. C'est-à-dire qu'on est déjà bilingue quand on intègre le master d'interprète en langue des signes. Et ensuite, on est vraiment formé aux techniques, on fait des stages sur le terrain. Et quand on a le diplôme, félicitations, te voilà interprète, tu vas pouvoir traduire toutes les situations que j'ai citées auparavant. Sachant qu'on a une déontologie qui est propre à tous les métiers d'interprète, hein, pas seulement aux interprètes en langue des signes. Donc la déontologie de neutralité. Comme vous le voyez, ma collègue qui traduit, elle n'intervient pas. Elle n'intervient jamais pour donner son avis. Elle ne va pas transformer les paroles qui sont dites si jamais ça ne lui plaît pas. Simplement, elle traduit d'une langue à une autre ce qui est dit avec les intentions qui sont dites, avec les émotions qui transparaissent dans le discours, quelle que soit notre opinion ou notre avis derrière ça. Ensuite, on a la fidélité. Donc, elle traduit tout. Intégralement tout ce qui est dit. Elle ne fait pas le choix d'enlever ça parce que ça lui plaît pas ou parce qu'elle a pas envie ou parce qu'elle sait pas comment le traduire. Non, on traduit vraiment tout. Et en dernier, le plus important, je ne sais pas, mais qu'on cite souvent, c'est le secret professionnel. Donc ce qui est dit, ce qui est traduit dans une réunion, dans un rendez-vous, n'est jamais, au grand jamais, répété, un peu comme les médecins. Hein. C'est la même idée du secret professionnel. Et c'est ce qui fait qu'on peut intervenir dans tant de milieux. C'est que finalement, les entreprises, les clients qui font appel à nous ont confiance parce qu'ils savent que les informations qui y sont transmises ne seront jamais révélées au grand public. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié certaines choses.
Ça me semble parfait. Enfin, on voit assez bien ce qu'est cette structure et puis surtout le travail que vous faites en tant qu'interprète. Philippe, oui, vous vouliez ajouter quelque chose?
Ajouter quelque chose, effectivement, et j'ai besoin du micro, c'est moi l'interprète.
Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais c'est vrai que c'est très très important, en fait. Heureusement qu'il y a des interprètes et que les interprètes sont arrivés pour nous donner de l'autonomie. Parce qu'en fait, ça nous permet, les interprètes sont neutres. Avant, on avait plutôt tendance à faire appel à de la famille ou à des gens qui traduisaient pour nous, mais qui ne nous laissaient pas forcément être autonomes, en fait, qui des fois nous aidaient, répondaient à notre place. Là, on a vraiment, enfin, ça nous permet vraiment d'avoir le même vécu que n'importe qui, avec des obstacles ou quoi, des erreurs. Enfin, je ne sais pas comment quoi rajouter là-dessus, mais voilà, ça nous donne vraiment de l'autonomie.
Philippe et Amélie, est-ce que vous voulez bien nous parler de cette chorale éphémère? Il y a déjà eu 3 répétitions, je crois. Il y en a encore 3. Et la chorale donc se produira à la clôture du Festival Chandelle le 28 novembre, ici même au centre André Malraux. Vous pouvez nous dire un peu comment...